France Inter. Grand bien vous fasse. Le podcast.
Et si on changeait de vie, c'est une question que vous vous posez peut-être en ce moment. Et nous allons vous aider à opérer ce changement de métier, de lieu de vie, d'existence, pour le meilleur, évidemment. Dans cet épisode, comment trouver sa voie professionnelle avec la complicité de Christophe André et de Marie-Laure Zonsheim.
David Pajot était acheteur industriel à Paris. Il a quitté son travail et sa famille pour suivre une formation de berger dans les Pyrénées.
Ah, voilà les brebis. J'étais assis à un bureau 10 heures par jour devant un ordinateur. Et là, je me retrouve debout toute la journée, debout à 5 heures, couché à 23 heures, mais à crapahuter sur des chantiers de montagne. C'est un gros changement, ça.
Le confinement, le télétravail et une envie de retour à la nature. À 51 ans, c'est sur un coup de tête que David Pajot a décidé de devenir berger.
On peut toujours trouver des raisons logiques, mais c'est quelque chose qui prend un peu aux tripes.
Extrait du JT de France 2 en 2021. Il n'y a pas d'âge pour devenir berger et trouver sa voie. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Polytechnicien neuroscientifique de formation et rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, avec à la une ce mois-ci, comment trouver sa voie. C'est une question qui se pose à tous les âges et pas seulement en terminale avec Parcoursup. Hein.
Non, on est dans une époque où il y a de plus en plus de questionnements à divers âges qui peuvent être occasionnés par des enjeux climatiques, des ruptures de vie. Le Covid a été quand même un sacré déclencheur à ce niveau-là. Et puis une évolution chez les jeunes salariés notamment, qui semblent parfois vouloir peut-être des carrières un peu moins tracées à la vente et être prêts à prendre des virages à différents moments.
Petite question personnelle, vous êtes polytechnicien, neuroscientifique de formation et puis finalement vous êtes devenu rédacteur en chef de Cerveau et Psycho.
Ouais.
Vous avez mis du temps à trouver votre voie ?
C'est une question que je me pose toujours, c'est-à-dire que moi j'ai fait partie de ces quelques personnes qui a très tôt vers collège déjà, vers 12-13 ans, étaient persuadées de savoir exactement quelle était leur voie, une passion très très précisément définie. Et un virage qui s'est fait justement à la sortie de Polytechnique, un virage scientifique d'abord, puis même des sciences vers des métiers plus de la communication et de l'écriture. Donc ça pousse à s'interroger, quand on est sûr d'une chose, même assez jeune, est-ce que forcément on a bien identifié ce qui nous correspond ? Il peut y avoir des pièges.
Vous, Christophe André, vous saviez que vous vouliez devenir psychiatre à 15 ou 16 ans, à cet âge où l'on vous demande ce que vous voulez faire plus tard ?
Oui, moi c'était clair, c'est en terminale, à 17 ans, 18 ans, que j'ai compris que je voulais faire ce métier. Et après, c'était simple, je me suis mis sur les rails. Mais avant, c'était n'importe quoi, je voulais être pilote de course ou des trucs comme ça.
Et vous, Marie-Laure Zonsheim, à 5 ans, vous rêviez de devenir rédactrice en chef à Femme Actuelle ?
Rédactrice en chef peut-être pas, mais c'est vrai que très 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 jeune, et je crois que c'est un peu ce qui rejoint ce que vient de dire Sébastien, c'est la passion. Voilà, je savais que c'était ça que je souhaitais faire.
Alors, Sébastien Boller, l'une des questions fondamentales quand on cherche sa voie, c'est comment trouver ce qui nous correspond réellement et comment faire face aux multiples pressions et influences qui nous empêchent de trouver notre voie.
Ah, y a un leitmotiv qui ressort du dossier qu'on a consacré à cette question, c'est il faut s'y prendre assez tôt. C'est-à-dire qu'il faut avoir des conversations dès le plus jeune âge, en famille, avec les éducateurs, les professeurs, avec des gens un petit peu de tous les milieux professionnels, pour pas découvrir ce questionnement à Parcoursup, en gros. Et parce que les études montrent que plus on a commencé tôt, et puis il y a des pays d'ailleurs où on favorise ça, dès la maternelle même, notamment au Canada ou en Belgique, moins on se fait de fausses idées, en fait, sur les métiers d'une part, et sur ce qu'on croit être soi-même, sur les préférences qu'on pense avoir identifiées en soi-même. Donc, la première chose, c'est ça, c'est d'encourager une réflexion sur ce plan-là, en famille, avec les personnes qu'on peut rencontrer, pas avoir peur d'en parler dès le plus jeune âge.
Bonjour Isabelle Olry-Louis.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie de l'orientation à l'Université Paris-Nanterre et vous avez coécrit chez l'Harmattan l'orientation tout au long de la vie. Bonjour Emmanuel Vignoli.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers. Toutes les deux, vous avez participé au dossier de Cerveau et Psycho. Bonjour Laurence Bourgeois.
Bonjour.
Vous êtes consultante en ressources humaines, coach certifié et l'autrice chez First d'un livre indispensable quand on veut se reconvertir pour les nuls, changer de voie professionnelle. Alors, la crise sanitaire a tout de même été un révélateur pour certains Français. Ce fut le déclic pour changer de vie professionnelle ou du moins y réfléchir. un sondage IFOP pour le Centre européen de formation montre que 44% des actifs français souhaitaient entamer une reconversion. Que raconte ce chiffre, Laurence Bourgeois ?
Il raconte que les confinements successifs ont été une vraie période d'introspection. Les personnes ont réfléchi au sens qu'elles voulaient, il ou elle voulait donner à leur vie. Et c'est vrai que ce confinement a donné des ailes à beaucoup, quand on en constate les chiffres.
Isabelle Olry-Louis, plusieurs facteurs expliquent ce besoin profond de reconversion.
Oui, ces facteurs sont très divers. Ils peuvent être internes à la personne, la lassitude, l'ennui dans le travail actuel, des désirs anciens inassouvis. Ça peut être aussi des facteurs en lien avec les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Un projet de délocalisation, de restructuration dans l'entreprise, des conflits peut-être rencontrés. Ça peut être encore des événements imprévus, une maladie qui frappe, un accident, une rencontre déterminante. Voilà.
Il ne faut pas oublier le besoin de sens également.
Alors oui, ce besoin de sens, alors il est continu et puis il se retravaille au fil des expériences, mais on observe en effet un certain nombre de personnes qui ne trouvent pas assez de sens dans l'activité qui est la leur et qui sont en quête de sens. Voilà, avec le risque parfois aussi d'idéaliser ce sens, mais c'est au contact des choses concrètes qu'on peut remanier ce sens et le reconfigurer en fonction des évolutions connues.
Et puis il y a également l'usure professionnelle.
L'usure professionnelle, en effet, liée aux conditions de travail, et qui touche peut-être derrière ce chiffre que vous citiez tout à l'heure, il y a des différences selon les niveaux de qualification. En fait, les plus nombreux à aspirer à une reconversion, c'est paradoxalement, ce sont les moins qualifiés et les moins armés pour faire ça, et ceux qui ont statistiquement le moins de chances de réussir leur reconversion. Voilà.
Laurence Bourgeois.
Oui, la notion de sens est capitale parce que pour moi, le sens renvoie au pourquoi. C'est-à-dire que là, on évoque énormément de raisons qui sont davantage des fuites que des volontés d'aller vers. Et c'est un petit peu l'écueil en matière de reconversion. C'est-à-dire que on sait toujours ce dont on ne veut plus, mais est-ce qu'on sait vraiment ce vers quoi on veut aller ? Et donc le pourquoi, qui est la question mère, c'est revenir à ses motivations profondes, à ce qui constitue la colonne vertébrale de l'individu, son identité propre, ses valeurs, ses besoins, quelles sont les valeurs que demain il ou elle souhaite retrouver, est-ce que ses besoins seront nourris dans son nouvel environnement professionnel ? C'est une vraie question, une phase de questionnement qui est impérative.
Emmanuel Vignoli, comment expliquez-vous ce besoin assez profond de reconversion professionnelle ?
Alors, moi, je pourrais l'expliquer aussi par le rôle des émotions qui peuvent jouer sur les questions justement d'orientation et de transition professionnelle. Comme l'évoquait tout à l'heure Isabelle Olry, ça peut être une profonde lassitude, de l'ennui, de l'anxiété, de mal-être dans son travail. Et ces émotions, elles jouent un rôle de renseignement, elles nous alertent sur ce qui se passe bien, ce qui se passe mal dans notre environnement. Et les écouter, les identifier, c'est une manière aussi de les prendre en compte et de s'ajuster finalement à ces situations. Et dans certains cas, eh bien, il vaut mieux quitter effectivement l'emploi ou le travail dans lequel on se sent pas bien pour pouvoir se réorienter.
Comment bien écouter ces émotions ? Comment les identifier ? Est-ce que vous avez des outils concrets ?
Alors, pour les écouter, peut-être que le meilleur moyen, c'est aussi d'en parler, aussi avec son entourage proche. On sait que chez les jeunes notamment, mais aussi chez les adultes, partager ses émotions, lorsqu'on vit un événement émotionnel, le partager avec son entourage proche permet d'identifier, de mettre des mots sur ses émotions, de réorganiser aussi l'information qui est associée à cet événement émotionnel et petit à petit aussi d'en prendre du recul et de s'ajuster justement à la situation que l'on peut vivre.
Isabelle Olry-Louis, bien souvent, un élément déclencheur amorce un changement de trajectoire professionnelle. Quel genre d'élément déclencheur ?
De toutes sortes.
Je parlais tout à l'heure d'une rencontre, ça peut être un événement personnel, un deuil, une naissance qui amène à s'interroger autrement, à porter un nouveau regard sur sa vie et sur les priorités qu'on veut lui donner. Ça peut être aussi une maladie ou un accident rencontré. Alors l'événement déclencheur, c'est la partie visible qu'on identifie facilement comme étant à l'origine du questionnement. Mais il y a souvent des choses antérieures à ça, des réflexions qui ont commencé à se mettre en place, on a vu dans ce qui a été dit précédemment, hein, voilà. Donc l'élément déclencheur, il va permettre de reconsidérer peut-être des choses qu'on avait mises de côté pendant tout un temps et de se reprojeter autrement.
Laurence Bourgeois.
Oui, l'élément déclencheur, je pense, s'active sur un terreau déjà fertile d'une volonté consciente ou inconsciente de changement qu'on a enfoui peut-être dans un petit coin de sa tête avant de dégainer le plan.
Isabelle Olry-Louis, ce qui est très étonnant, c'est l'augmentation des réorientations chez les jeunes.
Oui. Alors, ça interroge et on parle de génération Z avec les précautions d'usage hein, par rapport à cette lecture, mais on parle de nouveaux rapports au travail des générations actuelles, ceux qui ont entre 18 et 30 ans aujourd'hui, qui sont plus sensibles sans doute à certaines valeurs comme l'environnement, le respect de l'environnement, qui sont sensibles à l'équilibre aussi des sphères de vie, qui sont peut-être un peu moins dépendants des organismes que l'ont été les générations précédentes et qui envisagent leur carrière comme finalement une suite d'expériences possibles avec pourquoi pas des pauses, des césures, des changements. Alors les chiffres, plusieurs chiffres sont avancés. Actuellement, on considère que les générations en ce moment au travail ont à peu près 4,5 de changements professionnels en moyenne au cours de leur vie. Pour les jeunes générations, certains avancent le chiffre de 12 ou 13. Donc évidemment, ça met dans une configuration particulière aussi d'ouverture au changement et puis d'internationalisation parce que c'est aussi quelque chose qui est cher aux jeunes générations, au moins les plus diplômées, parce que là aussi il y a des inégalités sociales importantes.
Question de Marie-Laure Zonschein de Femmes Actuelles.
Oui, Laurence Bourgeois, vous parliez de la colonne vertébrale de cette motivation qui finalement est en chacun de nous, parfois inconsciente, vous l'avez dit, mais dans les reconversions, et Madame Olry-Louis l'a évoqué, il y a parfois des reconversions qui viennent à la suite d'un événement violent. Par exemple, l'entreprise ferme, le secteur décline, un plan social, vous l'avez dit aussi, des événements personnels violents, pour lesquels on n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'y a pas eu cette phase de motivation, de maturation que vous évoquiez. Dans ce cas, c'est un peu sauf qui peut. Il y a une nécessité, c'est une reconversion subie, une nécessité d'avancer, de faire autre chose, de trouver autre chose. Dans quel cas, comment on s'adapte ?
Exactement. Alors là, c'est beaucoup plus effectivement délicat. Exemple, aujourd'hui, on le voit, hein, le changement climatique, par exemple, dans les stations de sport d'hiver, nécessite du jour au lendemain, quasiment, de changer de métier parce que les remontées mécaniques, par exemple, ferment. Et j'ai vu des personnes qui se sont reconverties, par exemple, photographes animaliers, donc sur les hauteurs, etc. Donc c'est vrai, quand on est dans une reconversion subie, effectivement, il y a toute cette phase d'acceptation, de déni, enfin cette courbe de deuil déjà à accepter, à remonter progressivement, et puis essayer de, à la fois capitaliser sur, à un moment donné, ses appétences, ce qu'on aime faire, ses compétences également, étudier les marchés, est-ce qu'il y aura un besoin effectivement à une nouvelle activité, et puis financièrement, est-ce que demain je m'y retrouverai ? Mais là on n'est plus du tout dans la même configuration, vous avez raison.
Emmanuel Vignoli, sur ces émotions qui accompagnent ces reconversions subies.
Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas dans l'exemple qui vient d'être présenté, c'est que, effectivement, un licenciement, ça peut être une vraie épreuve. Hein. En fait, ça peut susciter de multiples émotions, mais la signification émotionnelle, enfin la signification de l'événement, elle va beaucoup dépendre aussi de l'individu et de chaque individu en fonction de son histoire, son expérience, voilà, de ce qu'il a pu vivre. Et un licenciement peut être pour certains une épreuve très douloureuse, pour d'autres, elle pourra être au contraire un moyen de se réorienter et de vivre les choses de manière beaucoup plus de vivre les choses de manière plutôt avec bonheur en fait. Hein. Donc ça dépend vraiment beaucoup de la manière dont la personne va percevoir cette situation compte tenu là encore de ce qu'elle a pu vivre antérieurement.
Laurence Bourgeois.
Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'expérience ressources humaines, hein, puisque j'ai été DRH. C'est vrai que... dans plus de 80% des cas, les reconversions subies, entre guillemets, hein, suite finalement à un départ non volontaire, ont été de vrais succès et de vraies révélations. Et ça, je crois que c'est vrai qu'on le dit, mais quand on le vit, et quand on le voit vivre par des personnes que l'on accompagne, par exemple, en coaching, c'est vraiment extraordinaire de voir ça.
Isabelle Hollery-Louis.
Oui, je voulais à ce propos insister sur la valeur de l'accompagnement pour faire parler ces émotions, pour permettre aux personnes d'en prendre conscience et peut-être de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ça. Il y a souvent beaucoup de colère, beaucoup d'hostilité, beaucoup de regrets dans cette affaire et c'est difficile de se projeter, de passer à autre chose tant tout ça n'a pas été abordé, travaillé, voilà. Et on constate sur les personnes qui sont accompagnées, notamment avec des psychologues qui sont en mesure d'écouter cette souffrance, souvent au fil de l'accompagnement, des émotions plus positives qui viennent se mettre en avant.
Christophe ?
Oui, c'est passionnant ces histoires de choix, d'orientation, de décisions existentielles, parce que c'est nouveau quand même. Les sociétés traditionnelles ne nous offraient pas la possibilité de changer comme ça. On était assigné à un destin familial, professionnel, géographique. Et au fond, c'est comme si on était embarrassé par ce qui est un progrès, mais ce qui entraîne aussi des difficultés. Au fond, cette richesse pose des questions et déstabilise. Mais c'est vrai que c'est une chance formidable de pouvoir changer plusieurs fois de métier dans sa vie.
Comment trouver sa voie professionnelle, la bonne orientation, quel que soit son âge? C'est le thème de cet épisode avec le mensuel Cerveau et Psycho. Isabelle Hollery-Louis, je rappelle que vous êtes professeure des universités en psychologie de l'orientation et vous me disiez hors antenne qu'il n'y avait pas une voie professionnelle.
Oui, c'est un modèle classique. Hein. Ce sont les modèles qui ont prévalu pendant longtemps en psychologie de l'orientation. Chaque personne, en fonction de ses intérêts, ses valeurs, sa personnalité, serait faite pour un métier donné. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus dynamique que cela aussi. Et en fait, les choses se construisent et se rejouent au fil de notre histoire, au fil des expériences dans lesquelles on peut être plongé et qui nous transforment. On peut se découvrir des passions, des intérêts, des envies, simplement en voyant faire, en voyant le regard des autres porté sur nous, qui est aussi très important.
Sébastien Boller, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho. J'aimerais savoir ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on fait le choix d'une voie professionnelle, alors que l'on sait que ce n'est pas forcément son désir profond. Et on s'entête quand même dans cette voie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on persévère alors que ce n'est pas vraiment fait pour nous?
Alors, ce qui se passe dans notre tête, oui, on peut s'entêter dans certains cas, et puis dans d'autres cas, on peut vivre ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire, et c'est le cas apparemment de certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui, puisqu'il y a des sondages, il n'y a pas longtemps, qui faisaient état de presque un salarié sur deux qui vivrait ce qu'on appelle un conflit de valeurs au travail. C'est-à-dire faire quelque chose auquel on n'adhère pas fondamentalement, ou qui correspond pas à notre représentation du monde, ou à nos goûts, nos préférences, nos aspirations. Enfin, l'exemple typique, c'est par exemple un salarié qui travaille dans une entreprise qui fabrique des bouteilles en plastique, je sais pas, et puis qui est de plus en plus conscient du drame écologique et qui voit des reportages à la télévision sur l'accumulation des plastiques dans les continents, dans les océans. Il peut vivre cette collision des valeurs et de l'engagement dans son activité concrète. C'est pas sans danger. Bon, si on veut parler de neurosciences, effectivement, il y a certaines parties de notre cerveau qui sont très sensibles à ces contradictions internes, notamment une zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est situé à la jonction entre les deux hémisphères cérébraux et qui est très impliqué dans la recherche de sens aussi. Et donc dès qu'on se retrouve comme ça dans des situations où on fait une chose mais on a conscience qu'il faut pas, où on voudrait peut-être changer mais on n'ose pas, il y a cette activation récurrente de cette zone du cerveau qui provoque de la libération de certaines hormones du stress comme le cortisol, la noradrénaline, qui peuvent créer un mal-être chronique, qui peut aller jusqu'à la démobilisation, jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression. Donc dans ces cas-là, pourquoi on s'entête? Parce qu'on n'a pas le choix parfois, parce que franchir le pas de changer, ça coûte.
Oui.
Ça coûte. Il faut ouvrir les yeux, faut écouter ses émotions, se dire là, je commence le stress, faut l'identifier, se dire qu'il a une cause, que peut-être on peut agir sur la cause et ensuite oser franchir le cap. Et le piège qui avait été identifié hein, par le père de ce concept qui est la dissonance cognitive, qui s'appelait Léon Festinger, il y a un demi-siècle déjà, qui avait montré que bien souvent, en fait, on résout cette tension intérieure, non pas en changeant les actes, mais en changeant le discours. C'est-à-dire que finalement, on va se dire, ouais, je fais des bouteilles en plastique, mais en fait, on va trouver un moyen, il y a le recyclage, l'être humain trouve toujours des solutions, ou alors finalement, le réchauffement, c'est pas d'origine humaine. Enfin, bon.
Emmanuel Vignoli, professeur des universités au Centre National des Arts et Métiers, sur cette dissonance cognitive qui crée des émotions assez désagréables.
Oui, c'est vrai que de manière générale, hein, quand on vit une expérience émotionnelle, ça induit un état un peu de confusion. Hein. On ne sait plus trop bien finalement où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, et il y a un temps de flottement où finalement on a du mal à repérer, à identifier un petit peu ce que l'on ressent. Et c'est vrai encore là une fois que c'est peut-être aussi en recourant à l'aide d'autrui, en partageant avec les autres, en recherchant du soutien. On parlait d'accompagnement professionnel tout à l'heure. Eh bien, ça permet justement de pointer peut-être plus précisément ce qui ne va pas et les obstacles qui peuvent éventuellement empêcher une reconversion pour pouvoir, dans le cadre l'accompagnement et des échanges, il va trouver des leviers pour lever ces obstacles, les surmonter, les contourner et essayer finalement de surmonter la situation et de parvenir à trouver une issue qui permettrait peut-être de satisfaire à la fois son nouvelle perspective professionnelle.
Laurence Bourgeois, je rappelle que vous avez écrit « Se reconvertir pour les nuls », changer de voie professionnelle. Bien souvent, il existe un gap entre le désir de reconversion et le passage à l'acte, une forme de peur du vide avant le grand saut. Alors, il existe de nombreux freins. Hein. On a du mal à accepter l'idée d'arrêter son métier actuel. Il faut financer hein, cette nouvelle voie professionnelle. Et puis, il y a également les éventuels potentiels impacts sur la vie personnelle.
Oui, effectivement, il y a la reconversion professionnelle, je pense, c'est à la fois la rencontre entre un désir, une passion, et puis des contraintes, des devoirs, des doutes, des incertitudes, puisqu'une reconversion, ça veut dire un changement, ça veut dire aller d'un point A à un point B, et que pour bouger, hein, il faut de la motivation, hein, movere, c'est vraiment se mouvoir, et ce qui, à mon avis, permet vraiment d'aller vers, c'est le désir et la passion. Après, effectivement, on a des considérations plus réalistes qui peuvent parfois rabaisser le niveau d'ambition et qui peuvent être des freins perçus, alors soit réels, soit inconscients, soit parfois des arbres qui cachent des forêts, comme l'aspect financier, on le voit, comme je vais pas avoir la formation pour, j'ai pas les compétences, je me sens pas capable de, voilà, donc c'est aussi sur tous ces freins qu'il faut agir.
Quand une formation coûte 15 000, 20 000, 25 000 euros et que, voilà, on n'a pas tous les leviers pour la financer, c'est un sacré frein quand même.
Bien sûr, et effectivement, l'idée c'est de se dire quels sont vraiment les supports sur lesquels aussi je peux m'appuyer, est-ce que cette formation est nécessaire, est-ce qu'elle est nécessaire maintenant, est-ce que c'est le bon moment maintenant pour changer. Ça aussi, c'est une vraie question, parce qu'une reconversion dit donc un mouvement et dit beaucoup d'énergie, à la fois physique, psychique, et puis un impact, comme vous le disiez, Ali, sur l'entourage.
Isabelle Olry-Louis.
Oui, on a l'idée de la reconversion comme quelque chose de brutal, qui se fait en une fois. Mais parfois, on peut aménager des changements, étaler ces changements dans le temps, voilà, pour se tester, pour différer aussi le coût que cela représente. Et ça ouvre des possibilités plus larges de considérer les choses ainsi.
Allez, écoutons le jeune Mohamed dans le documentaire « Dans la tête des 13-14 ans » diffusé sur LCP.
Intégrateur web ou développeur web, chargé de CRM, ingénieur de cybersécurité. Ok, donc dans les métiers que je vois, il y a un technicien pour ordinateur en gros, développeur informatique, bon, développeur mobile pour des applications, ingénieur dans le web. Je sais pas exactement ce que c'est. Bah voilà quoi. Je sais pas, non, mais je trouve que c'est. Pas que c'est une mauvaise idée, hein, mais.
Bah, réfléchis sur ce que tu veux faire.
Je sais, mais voilà.
T'as encore.
J'ai le temps, je sais. Moi, je veux bien faire au moins pour essayer, mais ça emballe pas tant que ça non plus.
Moi, ça m'inquiète parce que, voilà, il faut. qu'il faut trouver quelque chose pour le stage.
Et je me pose une question, ouais. C'est d'où est venue l'idée de faire, enfin, de faire pour moi, hein, un métier dans l'informatique? Parce que la première fois que tu me dis ça, je ne m'y attendais pas du tout.
Oui, mais parce que tu ne sais pas encore quoi faire. Bah, je me dis, bah, tu peux tenter ça et puis voilà, tu verras.
Ok.
On l'a entendu, hein, trouver sa voie, son chemin provoque une forme de vertige chez beaucoup d'adolescents. Comme le rappelle la chercheuse Valérie Cohen-Scali dans Cerveau et Psycho, les ados traversent une période de construction, hein, de leur identité, et de multiples facteurs influencent et biaisent leur choix, hein, Sébastien Bollard. Hein.
Ah oui, dès le plus jeune âge. En fait, ils arrivent à l'adolescence en ayant déjà été baignés dans un univers, l'univers familial, la société au sens large, l'école, où jouent un certain nombre de stéréotypes. Hein. Il y a des études qui montrent que dès 5 ans, ils se barrent déjà certaines portes. Les garçons vont se voir plus dans les métiers scientifiques, les filles dans les métiers du soin. Ça va très vite. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait déjà des cercles de discussion à l'école pour défaire un peu ces stéréotypes, expliquer que chacun peut faire ce qu'il veut, non pas en fonction de son sexe, mais en fonction de ses aspirations et de ses qualités aussi. Et là où c'est vraiment, en fait, c'est vertigineux, c'est pour ça que Christophe avait raison de dire que c'est nouveau, mais c'est vertigineux, c'est-à-dire que finalement, c'est connais-toi toi-même quelque part. Faut déjà arriver à savoir qu'est-ce qu'on a au fond de soi. Est-ce qu'on est plutôt doué dans ceci, dans cela? Et puis, est-ce que ce pourquoi on est doué correspond à ce qu'on souhaite faire? Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix faire quelque chose pour lequel ils sont pas forcément très bons. Mais c'est légitime aussi.
Christophe Audrey, vous étiez assez catastrophé hors antenne.
Oui, c'est-à-dire, j'avais de la compassion pour ces gamins, là, les pauvres, 13 ans, ils sont en train de chercher ce qu'ils veulent faire. En fait, il y a en psychologie, il y a un biais dans nos décisions qui s'appelle l'heuristique de disponibilité. On a tendance à choisir ce qu'on connaît, ce qui est disponible, ce qui est à côté. Et donc, les enfants, ils sont sur écran, ils pensent à des métiers de l'informatique, ils sont sur les réseaux, ils pensent à être influenceurs. Mais, en fait, c'est aussi un des rôles de l'école, je crois, que d'ouvrir les gamins à des univers qui sont hors de leur portée. Dans leur quartier, dans leur famille. Ça, c'est vraiment capital pour aider à féconder leur choix.
Emmanuel Vignoli, il est tout à fait normal d'être indécis à cet âge-là. Moi, je prends l'exemple d'un de mes neveux, 14 ans, qui rêvait d'être pilote de ligne il y a quelques années. Aujourd'hui, il ne sait absolument plus ce qu'il veut faire. Et au contraire, son jeune frère de 12 ans veut à tout prix devenir champion de hockey, un rêve de gosse, et je pense qu'il n'en démordra pas. Mais c'est normal d'avoir envie à tel moment de devenir pilote de ligne, et puis un an ou deux ans après, on ne sait plus du tout ce qu'on veut faire. Et on est un peu agacé à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»
Alors, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en fait, cette phase de l'adolescence, c'est une phase très importante où il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent au niveau de l'identité professionnelle. Cette identité, elle est en pleine transformation. Et c'est aussi un passage entre l'adolescence et l'âge adulte, hein, ce qui peut être assez anxiogène, en fait, pour beaucoup d'adolescents. Et en fait, en terminale, de nombreux adolescents ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que c'est tout à fait normal. Il faut dédramatiser cette situation. Certains ont déjà des engagements forts dans certains choix professionnels. D'autres sont complètement perdus et ne savent absolument pas, lorsqu'on leur demande effectivement de faire des choix, des vœux dans Parcoursup, ne savent absolument pas comment s'y prendre pour faire ses choix. On peur de se tromper, n'arrive pas à identifier ce qui pourrait leur convenir, se demande si lorsqu'ils vont faire un choix, est-ce qu'ils ne vont pas se tromper finalement, et est-ce que ça ne va pas les mettre dans une situation d'échec, est-ce qu'ils vont
réussir. Il ne faut surtout pas leur dire, moi à ton âge je savais ce que je voulais faire, hein. On évite. En tout cas, de nombreux jeunes zigzaguent entre les cursus, 2 années de droit et ensuite une licence d'histoire de l'art pour finalement décider de passer un CAP de boulangerie. Pour bien comprendre ces zigzags, 2 chercheurs, Kevin Kelly et Wei Qian, ont mené une étude en 2002 sur plus de 400 étudiants de 18 ans en moyenne qui avaient du mal à se fixer sur leur choix d'orientation. Alors, parmi les causes profondes de cette perplexité, on pouvait trouver un tempérament globalement indécis, un manque d'informations sur les filières, des informations contradictoires sur les métiers, une connaissance de soi insuffisante, et puis également des conflits internes entre plusieurs envies de métier, et puis également un conflit avec l'entourage sur le choix de ce métier. Vous avez, vous, mené, Emmanuel Vignoli, une enquête auprès de 300 adolescents âgés de 15 ans en moyenne. Et qu'est-ce que vous avez constaté
sur les prises de décision?
Exactement.
Alors, tous les facteurs que vous évoquez sont effectivement des facteurs qui jouent un rôle important. Et on sait aussi que toutes ces questions d'anxiété, d'avenir scolaire et professionnel, ce sont des questions très anxiogènes. Et l'anxiété contribue effectivement à rendre plus difficile les choix d'orientation, l'engagement dans un choix d'orientation. Il peut y avoir la peur d'échouer, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais la peur aussi de décevoir ses parents. On a identifié aussi dans certains travaux la peur de s'éloigner de ses proches, à un moment donné où de plus en plus les adolescents sont amenés à faire des choix sur toute la France et parfois obtiennent des orientations qu'ils souhaitent, mais à 800 km de chez eux.
Comment calmer cette anxiété ?
Alors, il me semble qu'une des choses qui serait possible, enfin, qui me semble nécessaire, c'est de dédramatiser cette anxiété et le fait de penser que même si on se trompe, c'est pas très grave et qu'il y a des moyens de se réorienter à l'issue de la terminale, même quand on a fait un premier choix et finalement. Commencer dans une voie qui ne se révèle ne pas être la nôtre, ça fait aussi partie des expériences que l'on peut vivre et qui nous aident à nous construire et à mieux nous connaître et à mieux comprendre quels sont nos intérêts.
Laurence Bourgeois.
Oui, je pense que dédramatiser, comme vous le dites, ça passe par le test, c'est-à-dire tester. À un moment donné, il faut se lancer, essayer. Et comme on vient de le dire, la vie n'est peut-être demain qu'une suite de reconversions professionnelles. Donc, savoir aussi être capable de résilience et se réorienter si ça ne marche pas.
Comment trouver sa voie professionnelle, la bonne orientation, c'est notre thème avec le mensuel Cerveau et Psycho. Laurence Bourgeois, vous avez publié « Se reconvertir pour les nuls ». Il est important de se poser les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on souhaite changer de voie ?
Alors pour moi, il y en a deux fondamentales. La première, c'est « qu'est-ce que j'aime faire ?» Parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on aimera le faire, mais plutôt parce qu'on aime faire quelque chose qu'on saura demain le faire. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Donc vraiment l'appétence. Et puis ensuite, j'aurais envie de dire, est-ce que j'ai derrière les compétences pour ? Après, il y a des questions plus réalistes, je dirais, de marché et de besoins sur le marché ou même financière, mais ça arrive bien loin après.
Également, peut-être se poser la question des valeurs. Quelles sont mes valeurs et quels sont mes besoins profonds ?
Exactement. Alors ça, les valeurs et les besoins profonds, je les vois plus comme des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que demain, quelles sont mes ambitions ? Quels sont les besoins aujourd'hui qui ne sont pas couverts dans ma situation professionnelle actuelle et que je souhaite nourrir demain ? Quelles sont les valeurs avec lesquelles, et vous le disiez tout à l'heure, je ne suis plus en accord et que je veux absolument retrouver dans un métier ? Donc ça va au-delà des compétences. C'est-à-dire qu'on va se questionner sur les valeurs que ce nouveau métier va pouvoir véhiculer.
Isabelle Olry-Louis, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on souhaite changer de voie ?
J'ajouterais peut-être quelles sont les ressources dont je dispose pour m'aider en changeant de voie et quels sont finalement les gains, les pertes que je risque de trouver en changeant. Il y a une perte qui souvent n'est pas mesurée suffisamment à l'avance, c'est la perte identitaire, la confusion identitaire. On se construit dans son activité professionnelle et l'identité, elle est faite de tout cela. Et lorsqu'on doit quitter le milieu professionnel qui nous a donné notre identité, on se trouve dépourvu de beaucoup de choses et tout ça est à reconstruire.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, pour aller dans votre sens, effectivement, les compétences ne sont plus forcément là, les responsabilités, la position sociale, les revenus, ça va de soi. Effectivement, c'est l'obstacle majeur. C'est finalement de faire le deuil de toutes ces compétences que l'on n'a plus, qu'il va falloir acquérir à nouveau, et retrouver une position que nous avions parfois, qui pouvait être confortable, dans l'entreprise dans laquelle on était avant.
C'est ça. En recommençant souvent à zéro, comme un bleu, un petit peu. Donc on n'a plus tout ce dont on était doté auparavant. Donc il faut accepter de s'exposer à tout ça.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va très bien, merci.
Bon, écoutez, ça a l'air, d'après ce que vous nous avez raconté au Standard, vous avez à plusieurs reprises changé de vie.
Oui, votre thème aujourd'hui me touche beaucoup, ça me parle parce que j'ai eu l'impression d'être plusieurs personnes dans ma vie, et je pense que c'est ça aussi, vous parliez de choix et de besoins, et je pense que mes besoins et mes choix n'étaient pas les mêmes quand j'avais 20 ans, et j'en ai 47 aujourd'hui, et je crois qu'à chaque période de ma vie, je me suis autorisée à prendre le risque, à sauter à l'élastique, parce que c'est un saut, vous le disiez tout à l'heure, c'est une perte de repères, faut se remettre en mode apprentissage, apprendre un nouveau métier. Et puis aussi d'être dans un environnement complètement différent. Moi, je suis passée du bac où je ne savais pas quoi faire et je me suis retrouvée à être directrice export d'une entreprise.
Ah, on vous a perdu, hélas, Catherine. C'était très intéressant ce que vous nous racontiez. Mais peut-être une réaction, Emmanuel Vignoli, à ce que nous a dit Catherine.
Oui, en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, Catherine nous dit « j'ai cessé l'hyper-réflexion et je suis passée à l'acte ». Et effectivement, je pense que un des meilleurs moyens de savoir si le métier que l'on envisage est fait pour soi, c'est de tester, tout simplement, d'y aller à un moment donné, à partir du moment où on a construit une démarche structurée et réfléchie.
Catherine, on vous a retrouvé.
Oui, tout à fait.
Donc, vous vouliez nous donner peut-être un conseil pour nous aider à trouver notre voie, vous qui avez changé de vie à plusieurs reprises.
En fait, j'avoue que c'est quand même difficile de savoir ce qui m'a poussée à le faire, mais en tout cas, je me suis sentie obligée à le faire. Et je regrette pas, parce que c'est une richesse incroyable. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est se sentir capable. Essayer de casser ses peurs, son angoisse, l'anxiété que l'on peut avoir avec tout l'inconnu, en fait, l'inconnu qui nous attend. Et aussi la volonté, en fait. Il faut vraiment une grosse, grosse volonté. Bien évidemment, il y a aussi les questions d'argent. Moi, j'ai toujours mis de côté en me disant « Demain, je voudrais faire peut-être quelque chose d'autre et je vais avoir un matelas. » Enfin, j'ai toujours mis de côté pour ça. Et je continue à le faire parce qu'il y aura encore une nouvelle vie peut-être à vivre dans quelques années pour moi. Je démarre une nouvelle vie, et j'ai pris la route en camion, je me suis posée quelque part. Avant, j'avais une entreprise. Enfin, j'ai plein de choses, c'est riche.
Et Sébastien Boller.
Oui, ce qu'on entend en filigrane dans le témoignage de Catherine, ce qui est, à mon avis, pas trivial, c'est la possibilité qu'en fait, vous savez, on a tendance à penser que le soi, c'est quelque chose de figé, qu'il faut trouver sa voie. En fait, il se pourrait très bien qu'en fait, ce qu'on a au fond de soi, ses aspirations et puis ses aptitudes, ça change. Et qu'il y ait plusieurs moments dans la vie où soi-même, en fait, on évolue et donc la voie qu'on va choisir n'est pas unique. Et ça, c'est une question fondamentale, en fait, sur le soi lui-même.
Marie-Laure Zonshine, vous imaginez comment
passionnant dans le témoignage de Catherine, elle est extrêmement positive, elle parle de richesse, elle parle de nouvelles acquisitions. Il y a ce côté vraiment découverte, aller de l'avant, que je trouve tout à fait engageant et qui donne effectivement de l'espoir de se dire, mais oui, après tout, Catherine a raison.
Laurence Bourgeois, un mot de conclusion.
Oui, je rebondis sur moi cette notion, ce témoignage de Catherine qui me semble assez sereine, Catherine, parce qu'elle nous explique aussi, en filigrane, moi je vois cette notion du plan B, c'est-à-dire qu'elle est prête à dégainer une alternative si jamais ça ne fonctionne pas, et son matelas est bien là pour ça.
Matelas financier, bien évidemment.
Exactement.
Merci à toutes et toutes. Hein. Merci Emmanuel Vignoli d'être venu. Merci Isabelle Olry-Louis. Merci Laurence Bourgeois. Se reconvertir pour les nuls, c'est publié chez First. Merci Sébastien Boller. Le numéro de Cerveau et Psycho, comment trouver sa voie, de février 2024, est disponible sur le site du magazine. Et merci à nos deux Tic et Tac pour leur intervention éclairante, Christophe André et Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle. Retrouvez dès maintenant tous les épisodes de notre série « Et si on changeait de vie » sur le site et l'appli France Inter.
Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.